aller au parloir depuis tout le temps, en fait, vu qu'il a commencé quand il était déjà dans mon ventre. Et ça a duré jusqu'à quasiment ses 6 ans. Donc, c'était assez long. Plus de 2 maisons d'arrêt, en particulier. Fleury et la santé, donc je pourrais parler que de ce cadre-là, mais je pense que ça se ressemble un peu dans tous les endroits, quoi. Déjà, c'est hostile comme environnement pour tout un chacun, mais c'est vrai que ça paraît particulièrement violent pour les enfants, vu que c'est pas du tout pris en compte, en fait. Quand on vient au parloir, souvent on prévoit beaucoup de temps parce que les retards, ça peut être très violent, donc puisqu'on peut se faire refuser l'entrée, donc on va essayer de prévoir d'arriver en avance. Les lieux d'attente à Fleury ou à la santé, ils sont pas du tout prévus pour les enfants. Enfin, à la santé, il y a juste un préfabriqué, un conteneur de camion qui est devant la santé où on peut boire un café pour pas être sous la pluie quand on attend. Mais du coup, voilà, enfin, et à Fleury, c'est pareil, c'est des préfabriqués, c'est des petits blocs. Il n'y a pas de jouets, il n'y a pas. Enfin, c'est pas simple, quoi. Ouais. Déjà, juste avant l'attente, sachant qu'on vient déjà dans un état émotionnel particulier, puisque ça ne va pas être très agréable. Et ensuite, à l'intérieur, c'est pareil, en fait. Mon expérience, c'est que ce n'est pas du tout pensé. On vient maintenir un lien avec quelqu'un de la famille et en fait ça va pas être pris en compte du tout. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas à l'intérieur prévu une salle de parloir qui serait beaucoup moins hostile déjà. Enfin voilà, le parloir c'est une table de chaise ou alors un bloc de béton et chacun d'un côté du bloc de béton. C'est horrible, c'est moche, c'est angoissant. Et moi, pour que mon fils il puisse trouver ce moment pas trop rêche, je faisais le choix d'emmener des livres, des petites voitures, des petites choses aussi qu'il avait envie de partager avec son papa, en fait, puisque pour l'expérience de mon fils, c'est qu'il connaissait pas son père en dehors de l'enfermement, donc il avait besoin de ramener des choses de sa chambre aussi pour se sentir un peu plus à l'aise. Ça, c'est une des premières choses que j'ai trouvées extrêmement violente. C'est à chaque fois, à chaque parloir, donc en plus sur 6 ans, vraiment on peut pas se dire autre chose que c'est pour faire chier. Parce que forcément, les matons, même s'ils tournent, ils finissent par te connaître, ils savent que tu viens, ils connaissent l'enfant. Et au début, du coup, ils portaient encore des couches. Donc j'amenais des couches. J'avais pas le droit d'emmener la couche à l'intérieur du parloir, ce qui est quand même aberrant. À chaque fois, c'est une guerre, en fait. Ouais. C'est pas autorisé, et du coup, il y a pas de personne avec un uniforme dans ce cadre-là qui peut se dire, oui, c'est normal, en fait. Comme, je sais pas, c'est vraiment de la mesquinerie de base, quoi.
Toi, tu dis vraiment que t'as l'impression qu'il y a vraiment un truc pensé pour détruire le lien, quoi.
Ouais. Moi, je l'ai vraiment, au fil des années, appris à le voir comme ça, en fait. Je me suis dit, déjà, rien n'est fait pour mettre l'enfant à l'aise. Donc, on lui fait ressentir que, tu vois, il est une extension de quelque chose de répréhensible et qu'en fait, il ne devrait pas venir là. Et pourquoi on maintiendrait le lien? Et toutes ces mesquineries, ça aide à faire sentir l'enfant coupable aussi et à ne pas lui donner envie de revenir. C'est hyper angoissant pour un enfant de savoir que... Enfin, tu vois, mon fils était accroché à sa petite voiture. Il sait que ça va être un problème. C'est déjà pas évident pour un enfant d'avoir envie de se taper tous ces contrôles-là. L'univers sonore de la prison, c'est très impressionnant pour les enfants. En plus, quand ils sont petits, ils arrivent vraiment... leurs yeux, tout, et au niveau des genoux, de tous ces bruits, des matraques, des flingues, des matons, c'est un univers sonore très particulier. c'est les grosses portes qui s'ouvrent, qui se referment, qui claquent, les contrôles, les bips des portiques, les trousseaux de clés qui tapent contre les cuisses des matons. C'est vraiment ça, quoi. Et tous ces sas qui sont prévus pour arriver jusqu'au parloir, donc c'est toujours des portes qui s'ouvrent, qui se ferment. C'est quand même vachement violent. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui se perdent en fait dans leur colère. Ils savent plus s'ils sont en colère contre cet endroit qui est hostile, contre le parent qui viennent voir et qui, du coup, dans leur tête, les oblige à subir ça. Et je pense que c'est vraiment pensé que l'enfant puisse générer un dégoût, en fait. Et ça, je l'ai corroboré avec le fait que quand, pour moi, c'était difficile de continuer de venir au parloir, parce que ce qui se jouait entre le père de mon fils et moi, pendant ces quelques minutes de parloir, bah, ça prenait trop de place, ça permettait pas à l'enfant de construire sa relation. J'ai cherché une solution pour qu'il puisse y aller tout seul. Franchement, j'ai été tellement choquée, et ça m'a vraiment paru très violent, que les associations qui peuvent emmener les enfants voir leurs parents, elles ont accès aux prisons par d'autres endroits. Donc à la santé surtout, c'est une autre entrée, c'est beaucoup moins de contrôle de matons. C'est du coup une grande pièce, très lumineuse, pleine de jouets, auxquels ils ont accès en fait. Donc les gens qui ne sont pas des parents, qui veulent accompagner les enfants voir leurs parents au parloir, ils vont avoir beaucoup plus de facilité et être entourés de quelque chose de beaucoup plus fluide. Mon fils, il a vraiment exprimé que c'était beaucoup plus chouette d'aller au parloir avec les associations catholiques là qui l'emmenaient, parce que c'était beaucoup plus agréable. Il voyait moins de flics et que c'était beaucoup plus pensé, en fait. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas, que ce soit plus possible que pour les familles d'accéder à un endroit où, en plus, ils ont plus de temps. On avait droit à 45 minutes en parloir famille. L'association, elle peut y aller une heure.
Ouais. C'est violent. Mais, et t'as réussi à en parler avec du coup ces accompagnateurs d'associations de cette différence-là? Ils arrivaient, eux, à s'expliquer ce qui se passait ou...
Pas tellement. Ils n'ont pas de posture vraiment. Bon, voilà, les abords des prisons, c'est beaucoup tenu par des cathos. Enfin, moi, en tout cas, c'est les gens que j'ai rencontrés, en dehors de gens qui viennent des fois tracter, faire du lien. Mais en institution comme ça, c'est des cathos. Et du coup, ils ont une posture où ils veulent pas juger rien. Donc, dans leur idée, ils jugent pas les personnes détenues. Voilà, ils font une bonne action, mais ils jugent pas non plus l'infrastructure. Okay. Et du coup, la dame qui emmenait mon fils, elle était complètement entichée de l'enfant. Elle le trouvait formidable, merveilleux, très intelligent. Elle lui a fait plein de cadeaux. Elle avait vraiment cette posture d'être dans la charité complète, quoi. Pauvre petit enfant qui subit ça, mais jamais aucun jugement sur ça. Et je pense que ma colère, elle la comprenait comme quelque chose bah oui, c'est triste d'être dans cette situation. Mais oui. C'est une colère qui est beaucoup plus large, en fait. Enfin, il y a moi dans cette situation et plein de gens. Et c'est juste complètement aberrant de créer ces situations pour les familles. Enfin, je pense qu'il faut être vraiment stable dans sa tête et avoir beaucoup de relais autour pour pouvoir dépatouiller avec l'enfant aussi toutes les émotions que ça lui génère. Ouais. Un enfant, il va se sentir très coupable de ne pas avoir envie d'aller au parloir, alors que ça, c'est assez légitime. Il y a plein d'adultes qui le diraient aussi. Ils le font pour maintenir un lien avec quelqu'un qui est enfermé, mais ça pèse, c'est dur, c'est lourd. Et en plus, on se sent coupable de se sentir complètement étouffé à l'intérieur, claustrophobe, parce qu'on pense à la personne qui va pas sortir. Et pour les enfants, c'est très dur, en fait, d'arriver à se dire « moi, j'aime pas aller là-bas ». Et souvent, cette culpabilité, elle se transforme en colère contre le parent, de se dire « ben ouais, mais pourquoi il me fait subir ça ?»
Les parents qui sont à l'intérieur, du coup.
Ouais, forcément. Et c'est très long. Et c'est ce que j'avais envie de partager aussi, c'est que moi, J'ai essayé d'expliquer à mon fils qui me demandait beaucoup pourquoi est-ce que mon père est enfermé. Et je lui disais, bah, pour plusieurs raisons. Il y a des choses qui ont été vues par la société comme n'étant pas valables, pas acceptables. Mais il y a aussi, il est enfermé parce que ça existe. Et donc, c'est sur ça qu'on m'a beaucoup repris. Le service de probation et d'insertion pénitentiaire qui était au courant et qui facilitait les démarches de papier pour que, enfin, qui ont par exemple facilité un transfert pour que nos trajets jusqu'au parloir ils soient moins longs ou des choses comme ça. Quand l'enfant voulait plus aller au parloir, ils m'ont harcelé pour me dire que c'était de ma faute en fait, parce que je ne disais pas à l'enfant que ben voilà, son papa est en prison parce qu'il a fait une bêtise et c'est normal, c'est plus simple comme ça. Et moi, je voulais pas lui dire ça. Parce que déjà, l'enfant, il grandit avec ce vocabulaire. Enfin, bêtise, ça me paraît être un mot qu'on peut pas dire à un enfant par rapport à un univers aussi violent.
C'est clair, c'est
ça
clair.
Fait partie de son environnement de tous les jours. Du coup, je pense que c'est très angoissant. Et puis en plus, ça met dans la tête de l'enfant que ce genre de punition extrêmement violente, elle est normale. Et c'est ça que veut le service d'insertion, les psys et tout. Que l'enfant il canalise sa colère sur le parent. Et moi, je trouve que ça, c'est extrêmement violent. Ça me paraît sain que les enfants ils aient aussi une colère, en fait, contre les matons, contre tout ce système. La colère qu'ils ont envers leurs parents, ils pourront la gérer, l'exprimer à un moment avec le parent, mais que la colère, elle est complexe, c'est juste, en fait. Ils sont en colère contre le parent parce qu'ils comprennent pas très bien pourquoi ils se retrouvent dans cette situation à subir. Mais ils sont en colère de manière floue aussi contre tout ce système qui fait que eux ils se retrouvent pris dans cet engrenage. Et ça, c'est juste aussi. Et c'est pas que le parent qui crée cette situation.
Est-ce que, en parlant de ça... Par exemple, ton fils, il voyait un psy de la pénitentiaire ?
Non, pas lui, mais son père, oui. Okay. Et du coup, cette personne s'est aussi permise de m'appeler quand l'enfant a, pendant un temps, voulu ne plus aller au parloir.
Toi, et ça te fait vachement culpabiliser aussi. Enfin, il y a aussi un rapport hyper moralisateur.
Complètement.
Pour toi, en fait, pour la daronne qui gère ça.
Bah oui. Il faut avoir un certain discours. Et du coup, ils ont fini par nous donner un fascicule qu'ils avaient imprimé, qui s'appelle « Que fait ton papa en prison ?» Et c'était horrible, ça m'a mise tellement en colère. C'était un petit livre de 8 à 10 pages, qui était bleu, rose, jaune. Ça avait l'air formidable, quoi. Il y avait des petits dessins, stylisés comme des dessins d'enfants, qui raconte, bah, ton papa va à la bibliothèque, ton papa fait du sport, ton papa prend des cours. Bref, c'est formidable en fait. Ton papa est en vacances et tout se passe très bien pour lui.
Mais surtout qu'ils doivent bien s'en rendre compte dans l'univers dans lequel ils rentrent en passant au parloir qu'en fait c'est pas vraiment.
Mais
ça
bien sûr, c'est le summum de l'irrespect de donner des livres comme ça, tout colorés aux enfants. Qui viennent plusieurs fois par semaine ou au moins une fois par semaine, même une fois par mois, voir un univers qui est que gris et bleu marine, c'est complètement aberrant. Moi, il y a des gens avec qui je suis rentrée en contact, mais parce qu'en fait, au bout d'un an et demi, oui, on se voit, on se connaît, on s'est repérés. Les femmes que j'ai croisées et les enfants que j'ai croisés ne sont pas forcément à l'aise. Chacun brasse aussi un petit peu ce que ça lui coûte de venir là. Et du coup, on a pu échanger sur les horaires qui sont absurdes. Enfin, si tu travailles ou si tu as d'autres enfants qui sont à l'école, enfin, c'est quand même toute une organisation. Et en général, moi, j'ai croisé beaucoup de femmes qui sont fatiguées, qui ont le visage fermé. Ça demande une endurance incroyable aussi.
Quand toi ou ton fils, vous avez à un moment plus été au parloir, parce que pour toutes les raisons que tu donnes assez bien avant, est-ce que le psy à ce moment-là t'a appelé ? Est-ce que tu t'es pris des coups de pression ?
Oui.
Ok.
le psy me disait « Mais je comprends pas pourquoi vous écoutez la vie de votre enfant. Les enfants sont dans un désir spontané. Il vous dit maintenant qu'il a pas envie d'y aller, mais quand il sera en face de son papa, ça va bien se passer. »
Ah ouais.
Et j'ai été scandalisée. Et je lui disais « Mais non, en fait, pour qu'il puisse construire sa relation, il faut que moi j'entende son avis. » Bien sûr, il n'a pas envie d'y aller, c'est difficile, c'est hostile, c'est angoissant pour lui. Et pour qu'il sache que je respecte son avis, je veux lui laisser cette possibilité. Et le psy me disait, mais oui, mais ça c'est de votre faute aussi, parce que vous répondez pas simplement à ses questions. Quand il vous demande pourquoi son père est en prison, vous lui dites pas que c'est parce que son père a fait une bêtise. Je lui disais, mais bien sûr que non, je vais pas lui dire ça. Ça va encore plus l'angoisser, c'est pas ça que j'ai envie de lui dire. Il me disait, vous lui faites porter une situation trop complexe, c'est vraiment compliqué pour un enfant si jeune. Je lui dis, mais c'est pas moi. C'est pas moi qui lui fais porter une situation trop complexe. La situation, elle est complexe. Je vais pas lui faire croire au Père Noël. L'enfant, un parent en prison qui voit jamais dehors. Bah oui, c'est la merde. Je vais pas lui dire, mais non, tout va bien, ça va s'arranger. Et c'est horrible, en fait, cette pression qu'il y a sur les familles de lisser cette situation.
Ouais.
On doit faire comme si c'était pas si grave. Ben non, c'est, ça fait chier en fait. Et un enfant peut dire que c'est violent.
Ouais, il y a comme... Voilà, ils sont pas du même côté, quoi. Ils se rendent pas
compte
de la même manière, c'est clair.
Et est-ce que, justement, là, tu disais, si on arrive en retard, ben, on peut se faire sucrer des parloirs. Est-ce que c'était déjà arrivé? Et dans ce cas-là,
ouais.
Si ça est déjà arrivé, c'était quoi les réactions de ton fils ou comment t'as...
Non, mais c'est terrible, quoi. Enfin, c'est déjà tout un effort. C'était surtout quand on était à Fleury. On était très loin, du coup, en transport, et puis il n'y a pas beaucoup de bus. Et si on arrive une ou deux minutes en retard, ben, ça passe pas. Et il n'y a aucun moyen. J'ai été enceinte... Donc c'était évident que je marchais plus lentement et tout. Je me suis fait sucrer des parloirs et ils n'en ont rien à faire. Et un enfant qui pleure devant la porte et tout, il culpabilise la mère. Bah non, mais fallait prévoir avant. Vous avez qu'à vous débrouiller autrement. Ils n'en ont rien à faire. Et ça aussi, ça génère de la colère de la part de l'enfant qui en fait ne veut plus faire l'effort. La fois d'après, la seule chose qu'il a envie, c'est de pas se taper les 2h30 de bus, métro, etc. Il y a vraiment un truc de vous fréquenter des gens malsains, donc vous allez payer aussi. Vous êtes tous la même engeance de gens infréquentables. Je trouve ça dégueulasse, en fait, de la part de ces gens d'être convaincus d'être du bon côté de je ne sais pas quoi et de le faire sentir en permanence.
À un moment donné, l'enfermement, il permet pas une évidence même du rapport entre l'enfant et,
ouais.
et le parent qui est à l'intérieur et que ça crée une distance hyper forte.
Ouais. L'enfant, il se contient beaucoup et je parle de mon enfant, mais des échanges que j'ai eus, je sais que c'est beaucoup comme ça. Les enfants, forcément, dans cette situation, ils prennent beaucoup sur eux. Ils ont exactement le même raisonnement que les adultes qui viennent de l'extérieur. Ils plaignent la personne dans leur fort intérieur. Malgré la colère, ils plaignent la personne qui est enfermée. Et du coup, ils se mettent dans un rapport de protection. Donc, c'est une relation qui est très très longue et très difficile à mettre en place parce que l'enfant, il se contient énormément. Il raconte pas tellement ses petites choses de sa vie d'enfant, assez peu, et il fait pas beaucoup d'état d'âme. Et il va être dans l'écoute de l'adulte. Et je dis pas ça en termes de est-ce qu'il parle ou pas, c'est juste il va faire attention de pas blesser l'adulte. Donc construire une relation depuis l'intérieur de l'enfermement, ça demande énormément d'investissement de la part de l'adulte qui est enfermé. Il faut écrire énormément, il faut téléphoner énormément pour que le lien il puisse se créer, parce que 45 minutes ça permet pas en fait. Et du coup, bah, souvent, il y a une grande distance qui s'installe et qui alimente la colère de l'enfant, qui se dit, bah, en plus d'être absent, en fait, mon parent ne me connaît pas et ne me comprend pas. Et je pense que c'est douloureux pour tout le monde, en fait. La personne qui est enfermée, elle se torture de ça parce qu'elle le sait et qu'elle n'a pas beaucoup de prise dessus. Et ça, je pense, c'est très dur. Et c'est là où je disais, ben, ce qui est dur pour les enfants qui sont dans cette situation, c'est que c'est pas une situation suffisamment analysée, écrite, où on donne des pistes. Avoir un parent malade, par exemple, c'est loin d'être facile, mais on va trouver dans la littérature pour enfants, dans les films à la con, plein de pistes, en fait, pour penser à ses émotions. Parce qu'en fait, c'est une situation qui existe socialement. Ouais. On peut avoir un parent qui est mort, un parent qui est malade, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, qu'est-ce qu'on porte comme tristesse. Et les enfants, ils vont avoir des endroits où chercher leurs propres outils. Les enfants qui ont un parent en prison, ils sont très très pauvres à ce niveau-là. Déjà parce que c'est pas facile pour eux de sortir du cercle de la famille, de parler à la maîtresse, de parler à d'autres adultes. Donc ils ont pas beaucoup d'espace en dehors de la famille où vont aller chercher des outils. Et s'ils cherchent des livres pour enfants, les outils que les enfants se créent en fait, ils sont quasi inexistants. Donc c'est très long pour un enfant qui est dans cette situation de savoir quoi faire en fait, de sa colère, de ses angoisses, de sa tristesse. Je pense que ces enfants-là, ils sont assez seuls. Ouais, je suis désolée, c'est un peu trash tout ça. Ils s'en sortent bien quand même, les pauvres. Ouais. Ils ont une forme de force et de rage. Hein. Ils sont pas que, c'est pas que des victimes. J'aimerais que ouais, ça c'est quelque chose qui m'importe en fait. De rendre cette situation pas anodine, c'est anodin pour personne d'être enfermé, mais existante. Que du coup, que ça puisse ouvrir ces espaces. Parce que je parle des enfants, parce que ça me touche à travers mon fils, mais c'est vrai pour les adultes, qu'on a un amoureux, un papa, un tonton, n'importe qui, en fait. Que ça puisse être une situation suffisamment existante pour qu'on en parle. Comme on le fait quand on dit, ben voilà. Je suis triste, mon père a un cancer, ça me bouleverse. C'est des situations intimes, on n'en parle pas au premier venu au café, mais on peut le faire en fait, ça existe. J'aimerais que ce soit socialement beaucoup plus possible d'en parler et que voilà, que toutes les personnes qui brassent des émotions autour de ça, qui vont de la culpabilité à la colère en passant par la tristesse, l'impuissance, ben elles aient des espaces pour les dépatouiller. Parce que c'est dur de porter soi toutes les émotions. J'aimerais que les espaces qui s'ouvrent, où les gens puissent en parler, ils permettent de plus en plus de redonner aux gens un peu de confiance et de remettre la colère sur à qui elle appartient. C'est dégueulasse de faire ça. Et du coup, moi, mes enfants, par exemple, ils détestent les eaux. Ils veulent casser les barreaux des prisons pour les animaux. Enfin, ils ont un truc comme ça très fort de enfermer les êtres vivants. C'est malsain en fait. Ouais. Il y a quelque chose de taré là-dedans. Et je voudrais que beaucoup plus de personnes aient la possibilité de se dire ok, tout ce que je porte là comme émotion torturée, ben ça appartient en fait aux gens qui sont assez tordus pour extraire comme ça du vivant. Des gens, les parquer dans du béton, n'importe quoi.
Bye, Mac. Bon, alors, après vas-y. Ce témoignage assez complet, c'est un peu compliqué de rebondir, mais je vais essayer quand même.
Juste pour dire quand même, là, on a un,
bon, spontanéité, voilà, allez.
Ouais, non, un témoignage assez intéressant, on vous rappelle que vous pouvez laisser des messages sur le répondeur au 07 58 74 63 01, voilà, si vous avez des témoignages et des opinions à donner sur l'intérieur et l'extérieur.
Ok. Du coup, pour finir un peu et clore ce dossier Marmot face à la prison, je me demande, est-ce que je parle d'abord du livre qui fait plaisir ou est-ce que je feuillette ce livre qui
vas-y,
y a...
on parle des choses qui fâchent d'abord.
Ah, on parle des choses qui fâchent d'abord. Alors d'accord. Du coup, je vais enchaîner un peu avec ce qu'elle disait la copine. Du coup, lors de longs kilomètres que j'ai parcouru avec une amie qui allait voir quelqu'un en prison un peu loin, quand on est arrivé là-bas, on s'est retrouvé du coup dans ces fameux accueils qu'il y a aux abords des prisons. Et il y avait un petit livret destiné aux enfants et aux parents. Pour expliquer c'est quoi la prison à vos enfants. Du coup, ça, c'est l'UFRAMA. Donc, l'UFRAMA, c'est... attendez, je vais y arriver.
Ah, l'Union des familles.
Ah, il est là. Alors, l'UFRAMA, c'est l'Union nationale des fédérations régionales, des associations de maisons d'accueil, bonjour l'accueil, des familles et proches de personnes incarcérées. En gros, c'est donc une fédération qui fait des enquêtes d'état des lieux, des analyses sociologiques autour de ce que pensent les parents qui ont des enfants et qui peuvent être liés à la prison. Quand tu parcours le site, c'est assez exécrable, ça fait un peu mal au cœur, surtout les enquêtes d'état des lieux. Il y a des questions qui sont posées, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, le petit livret, il offre pas mal d'incohérences ou pas mal de ridicules ou pas mal de on prend les gens pour des cons, hein, c'est-à-dire que on va commencer le petit livret en donnant des conseils aux parents qu'il faudrait mieux qu'ils parlent et qu'ils cachent pas l'incarcération d'un proche à son enfant avec sous couvert de si vous lui dites pas, il va penser le pire, et le pire c'est la mort, comme si la prison c'était pas le pire. Donc voilà, ça commence par ça.
Si le pire c'est de penser que possiblement c'est de ta faute quand t'es un enfant et que t'as un proche incarcéré, puisque bien sûr ça peut venir dans ta tête, évidemment, quand t'as les flics qui viennent te défoncer la porte.
Voilà, donc après, ça va à donner des conseils aux parents, à comment expliquer l'incarcération d'un proche. Et du coup, lui expliquer, ça voudrait forcément dire que ton parent, il est incarcéré parce qu'il a fait quelque chose qui est interdit. Donc je ne vais pas y revenir, la copine, elle l'a bien dit, les bêtises. Voilà, bon, que la loi, cette loi qu'on vénère à fond, elle a décidé d'enfermer quelqu'un. Voilà, bon. Merde, j'ai bugué, je vais y arriver. Donc voilà, donc ce livret, après expliquer aux parents comment parler à l'enfant, ils te disent quand même que si l'enfant vit mal cette situation et qu'il est traumatisé, parce que certains, par contre, la vivent bien, hein, c'est dit dans le livret, mais si le vôtre, il ne le vit pas bien, il faut s'en référer à toute une équipe pédagogique, sociologue, etc., qu'on peut retrouver aux abords de ces prisons.
Au psy de l'administration pénitentiaire, ou alors tu peux aussi aller parler au juge des enfants, apparemment.
Qui explique
une des grandes possibilités pour que tu te sentes bien si ta famille ne t'explique pas suffisamment le pourquoi du comment, parce que en fait, c'est dans ce petit fascicule, au début, il y a quand même tout un truc un peu de diabolisation de la personne que tu connais qui est incarcérée parce qu'elle a fait une bêtise, ce qui est quand même hyper malin de dire à un enfant, je sais pas, le truc c'est âge moyen,
je sais pas, pour les 6-10, 6-12.
Ouais, 6-12. Non, 7 à 11 ans, quand même.
7 à 11 ans, oh, pardon, je me suis trompée d'une année à chaque fois. mais du coup, un truc de... parce que c'est destiné aux enfants, ils peuvent le lire tout seuls aussi, c'est dans l'accueil des familles, en fait. Et du coup, en fait, c'est au départ un truc de... du coup, si tes parents ne t'ont pas bien expliqué, tu peux t'en référer à un psychologue ou au maton ou au gentil. Enfin, les institutions sont gentilles et ta famille foire. En gros, voilà. C'est ça que ça dit.
Donc après, dans ce livret, on peut trouver plusieurs pages. Donc par exemple, il y a la page 20, il y a marqué « Comment imagines-tu la prison ?» Quand on n'est jamais allé en prison, on peut en avoir une image fausse qui fait peur. Un cachot, froid et humide. Et je précise « oui, oui ». Un cachot, froid et humide. Une grande tour sans fenêtre. Oui, effectivement, c'est pas des grandes tours, c'est des grands immeubles. Froid et sans fenêtre, tout à fait. On pense que les prisonniers ont une tenue rayée et un boulet au pied. Bah,
c'est le cas dans certains pays, ou alors une tenue orange et des menottes aux pieds et aux mains.
Tout à fait. Et après, on te dit aussi que ton père, ta mère, ton frère ou ta sœur vit dans une pièce qui s'appelle la cellule. C'est là qu'il passe la plupart de son temps. On nous met de te dire qu'il existe des quartiers d'isolement quand t'es pas en accord avec la pénitentiaire et que tu refuses, par exemple, une promenade ou je ne sais quoi encore.
Ou le cachot.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'effectivement, les quartiers disciplinaires ne doivent pas être abordés dans le livre pour les enfants.
Et ensuite, après, on te fait un super panel et je vais finir là-dessus parce que je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder sur ce genre de merde. C'est « Que fait ton parent pendant la semaine ?» Et là, tu as plein de petites bulles sur une même page où il y a des petits dessins qui énumèrent une journée d'un prisonnier ou d'une prisonnière.
Et alors, donc, c'est le centre aéré.
Il y a le réveil. Il y a
ils
la
ont
douche.
Tous le sourire, en tout cas, c'est assez incroyable.
Il y a le réveil, il y a la douche, il y a préparé sa sortie, il y a la promenade avec ses copains, il y a parfois du sport avec ses copains, il y a le repas dans la cellule avec ses copains, il y a le travail en atelier avec ses copains, et il peut aussi suivre des cours avec ses copains, il y a la visite au parloir, et enfin, il y a le dodo.
Il n'y a pas la fouille à nu, tiens, c'est bizarre.
Non, il n'y a pas la fouille à nu.
Non.
Bon, et après, voilà, il y a tout un panel de... Et à un moment donné, ils te disent, quand tu vas aller le voir, tu passes par plein d'endroits différents. Donc, il y a la grande porte d'entrée. Il y a le passage sur le portique, comme dans les aéroports, comme si tu partais en voyage.
Ouais.
Après, il y a les casiers, enfin, bon, voilà. Ce livret, je ne le recommande pas. Et pour le peu de livres qui existent, du coup, là, je vais en parler un petit peu plus sérieusement. Il y a un livre que j'ai découvert via la copine qui nous a donné l'interview, et je la remercie, qui s'appelle « Tu es un grand garçon maintenant ». Et c'est l'histoire d'un petit garçon, Maxime, qui a 7 ans, qui fête ses 7 ans. Et le jour où il les fête, il va faire un parloir pour voir sa mère, qui est une longue peine. Il explique comment l'accompagnant le prend pour une truffe en lui disant « Tu es un grand garçon maintenant ». Il pense qu'elle n'y connaît rien, que c'est à 10 ans qu'on est grand et que lui, il a froid devant la grande porte en fer et qu'il se sent petit et que comme à chaque fois, il a une boule qui lui arrive dans son ventre avant un parloir. Voilà. Tout le long de son histoire, Maxime ne lésine pas sur les différentes réalités qu'on lui impose. Il nous fait visiter aux abords de ses grands murs grillagés sa façon de voir ce monde carcéral, ses colères, sa lucidité à tout ça. Bref, un témoignage assez rude et pas facile, mais un livre qui, pour le coup, part d'un vécu et de l'enfant lui-même face à tout ça, et pas d'un livret de l'institution qui calfeutre l'image de la prison à son avantage et qui prend les gens pour des cons. Voilà, donc ce livre-là, il a été édité par les éditions Thierry Magnier dans la rubrique « Petits de poche, des romans comme des grands ». Et l'auteur s'appelle Michael Oliver. Je pense qu'on peut le trouver en librairie. Après, il en existe d'autres. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas mal foutu. Après, c'est quand même limité. Voilà, dans la rubrique littérature. Donc, je répète, ça s'appelle « Tu es un grand garçon maintenant ». Donc, c'est vraiment un livre pour enfants, par un enfant, un témoignage, qui a été édité par les éditions Thierry Magnier dans la rubrique « Petites poches des romans comme les grands ». Et l'auteur s'appelle Michael Oliver.